On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec Ariane Beauferré au sujet du dépistage de la trisomie 21 pour sa toute première chronique d'écologie intégrale. On a le bonheur d'accueillir pour la première fois autour de notre table cette semaine Ariane Beauferré, qui animera tout au long de la saison la chronique d'écologie intégrale. Alors, l'écologie intégrale, c'est un beau grand mot, ça. Est-ce que Ariane Beauferré, il faut être une écologiste intégriste pour faire de l'écologie intégrale?
Non, pas besoin. Tout le monde peut comprendre c'est quoi l'écologie intégrale. D'ailleurs, le pape François nous invite à découvrir ce que c'est dans son encyclique Laudato Si, Louis Satu.
Qu'est-ce qu'il dit sur ce terme, sur ce concept?
Il parle, tout d'abord, l'écologie, c'est... Il faut penser à des interactions entre les êtres vivants et l'environnement. Ça, on peut être écologue ou écologiste selon les pays et étudier scientifiquement ces interactions. Et dans une façon plus générale, dans le langage courant, l'écologie intégrale, ça comprend aussi les interactions entre les gens, ça comprend la culture et l'interaction entre l'homme et la loi morale, en fait, qui est inscrite dans la nature de l'homme. Donc ça comprend un peu tout pour bien vivre dans notre monde, en fait.
Alors ça va assez loin, on dépasse largement la question de la sauvegarde des rainettes de tel milieu, là, des petites grenouilles.
Oui, on dépasse, ça fait partie, mais on va plus loin.
OK, très intéressant. Donc aujourd'hui... Tu nous parles plus spécialement d'un livre ou d'une idée dont tu voulais nous entretenir. C'est la question du dépistage de la trisomie 21. C'est un thème qu'on aborde d'ailleurs dans les numéros d'automne de la revue et du magazine Le Verbe. De quel livre s'agit-il d'abord, là?
Alors, ça s'appelle « Les premières victimes du transhumanisme », transhumanisme dont on va nous parler aussi James tout à l'heure. Et ça a été écrit par Jean-Marie Lemenné, qui est président et fondateur de la Fondation Jérôme Lejeune en France.
OK. C'est quoi cette fondation-là?
C'est une fondation qui vise à défendre et promouvoir les droits des personnes trisomiques et aussi à aider les familles financièrement, mais aussi, peu importe leurs besoins, les familles qui accueillent des trisomiques. Et aussi, elle finance de la recherche pour améliorer la vie des trisomiques au quotidien, en fait.
D'accord. Là, je vois le livre qui est à côté de toi, une couverture toute noire. C'est pas un peu lourd, c'est pas un peu déprimant tout ce sujet-là. De quoi il est question plus précisément dans ce livre-là? C'est quoi son angle ou qu'est-ce qui le motive, lui, à écrire ce livre-là?
Ce qui le motive, c'est qu'il voit une situation aujourd'hui qui est très, très noire. Il parle surtout de la France, mais aussi de certains autres pays comme les États-Unis ou l'Allemagne. Mais beaucoup, surtout le contexte européen, par rapport au dépistage des enfants trisomiques et à la banalisation en fait, des avortements des trisomiques. C'est, en fait, il dénonce un eugénisme qui s'est installé partout en Occident. On pourrait le dénoncer aussi ailleurs, mais lui s'attaque surtout à l'Occident. Et au fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une traque des enfants trisomiques, puis on les tue avant qu'ils naissent, parce qu'il ne faut pas qu'ils voient le jour, en fait. Et c'est cette banalisation qu'il dénonce en... On pourrait en parler longtemps parce qu'il prend différents points de vue, mais il en parle au niveau des associations, même des handicapés qui vont être d'accord avec plus de dépistage, au niveau des familles qui ne sont pas aidées, au niveau des politiciens qui vont faire des déclarations assez osées, comme par exemple, il y en avait un qui avait, je ne me rappelle plus de son nom, qui disait que... Il y avait encore 5% de bébés trisomiques qui naissaient en France et ils demandaient pourquoi est-ce qu'il y avait encore 5%.
Donc c'est assez lourd. Oui, James. Oui.
Jean-Marie Lemenné, si je ne me trompe pas, c'est le président de la Fondation Jérôme Lejeune.
C'est bien ça.
Et cette fondation-là œuvre pour promouvoir une saine, je dirais pas une saine gestion, mais...
Une saine acceptation.
une saine vision, justement, oui. des personnes handicapées.
Des personnes handicapées, et ils vont même plus loin, c'est-à-dire qu'ils financent vraiment de la recherche. Là, il y a des soins qui sont en train d'être développés pour aider notamment les facultés, améliorer les facultés mentales des trisomiques. Il y a des tests qui sont faits aux États-Unis, peut-être en France bientôt. Et c'est une fondation qui est vraiment extraordinaire parce qu'elle... Déjà, elle s'appelle Jérôme Lejeune, c'est celui qui a découvert le mécanisme de la trisomie 21, qui a montré que si ce qu'on appelait les enfants mongoliens à l'époque étaient comme ils étaient, c'était à cause d'un chromosome de plus sur la paire de chromosomes 21. Et c'est un homme, Jérôme Lejeune, qui essayait de comprendre comment ça fonctionnait pour les soigner et pas pour les dépister, pour les supprimer, en fait.
ce qui a été finalement retourné en quelque sorte contre son projet initial. Ses recherches, le résultat de ses recherches ont un peu été, été retournés contre lui. Bon, là, tu nous parles d'un livre qui a été publié en France, dont on va mettre évidemment tous les liens sur notre page Facebook à On n'est pas du monde. Mais si on revient un peu plus près d'ici, au Québec, on sait aussi qu'il y a du dépistage qui se fait. Comment ça se passe concrètement, tout ça?
Alors, c'est très semblable à ce qui se passe en France. Généralement, au premier rendez-vous avec le médecin en charge du suivi de grossesse, il nous donne des papiers pour aller faire le dépistage de la trisomie 21. Puis, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est la participation au programme de dépistage devrait être volontaire et reposer sur un consentement libre et éclairé. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, moi, par exemple, à mon premier, quand j'ai eu ma première grossesse, on ne m'a pas du tout parlé de dépistage. On m'a donné tous les papiers, on m'a dit, va faire tes examens, puis on ne m'a rien expliqué. Bon, je me suis renseignée, puis je ne suis pas allée, moi, mais je me dis, si c'est ça, moi, si ça m'est arrivé, il y a plein de femmes qui doivent aller faire des dépistages sans savoir que c'est ça. Par exemple, la première échographie, qui n'est pas une échographie obligatoire, sert aussi, entre autres choses, à dépister aussi les enfants trisomiques. Une fois que... on a une probabilité, en fait, soit avec des prises de sang, soit grâce à la première échographie.
Qui permet de déterminer, par exemple, certains indicateurs comme la clarté nucale, qui donne un indice de possible
trisomie. Ça donne
trisomie.
Une probabilité que l'enfant soit trisomique, mais ce n'est pas certain. Si le monde médical a un doute, en fait, il va proposer à la femme enceinte de faire une amniosynthèse. Et ça, c'est un test invasif. En fait, c'est une grande aiguille qu'on va insérer dans la poche de liquide amniotique pour en retirer une petite partie, pour avoir le génome de l'enfant et pouvoir déterminer vraiment avec une grande fiabilité si l'enfant est trisomique ou pas.
Et est-ce qu'il y a des risques associés à cette intervention?
Oui, c'est ça le problème. C'est qu'il y a des gros risques. Il y a 1% de fausses couches.
1%?
Oui. C'est-à-dire
qu'il
y a un enfant sur 100 qui meurt après une amniosynthèse parce que ça fait fissurer la membrane et c'est un test invasif. Donc, c'est quelque chose de difficile pour le corps de la femme enceinte. Et donc, ça peut faire des fausses couches. Et toutes les
donc,
femmes
ça
le
déclenche
savent
le travail. Puis, un stade de la grossesse où le fœtus n'est pas viable
pas
du tout.
Du tout,
on parle d'autour de 20 semaines, plus ou moins.
Parfois, c'est un peu plus tôt. Ça peut être autour de 15 semaines quand c'est vraiment dépisté tôt.
Anne-Sophie?
Oui, ben moi aussi, j'ai eu aussi affaire à ça. Puis c'est très... même le corps médical est très invasif, puis ils te mettent beaucoup de pression. En tout cas, moi, j'ai vécu ça. Il y a un de nos enfants avait une petite anomalie à l'échographie. Rien de trop, je dirais, comme dangereux, mais c'était un des symptômes de la trisomie ou de la fibrose kystique. Mais bon, c'était son seul symptôme qu'elle avait. C'était quelque chose où les intestins. Puis... tout de suite après, ils nous ont quasiment poussés physiquement dans le bureau du médecin. Le médecin nous a dit, allez vite en génétique, vous devez... Puis c'était vraiment comme... Là, j'ai arrêté 2 minutes, j'ai dit, OK, mais est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que quelqu'un est en danger de mort, là? Parce qu'on aurait dit que c'était ça. Fait que là, il me dit non. Il dit, puis il était tellement bête, le médecin, vraiment sans tact, là, je dirais. Il m'a donné le numéro du généticien. Il me l'a quasiment lancé sur moi parce qu'on ne voulait pas aller tout de suite faire l'examen. Au fond. Puis j'ai même une amie qui elle aussi, avait un bec de lièvre, son bébé. Elle s'est ramassée dans une salle, elle ne sait pas trop comment. Puis tu sais, déjà, tu es sous le choc s'il y a quelque chose, ton bébé. Puis elle s'est fait faire une amniosynthèse comme ça, elle ne savait même pas qu'est-ce qui se passait. Elle ne s'est pas fait dire, comme, OK, on va faire ça, il y a tel risque, tout ça. Puis son bébé est né avec une cicatrice parce que l'aiguille a percé son abdomen. Imaginez. Puis c'est vraiment, puis la femme est sous le choc, elle est fragile, puis elle se fait quasiment pousser physiquement dans
une salle. On est loin du consentement
d'examen
libre et éclairé.
Exactement, ouais.
Dont il est question sur le site du ministère de la Santé, dont nous parlait Ariane plus tôt.
Ça ressemble déjà à ce qu'on appelle de l'eugénisme, là. Pour le dire plus simplement, c'est-à-dire
grec qui est la bonne génisme, la naissance, la bonne naissance.
La bonne naissance, on veut éliminer ceux qui sont pas conformes à un standard d'humanité, d'une perfection fantasmée, là. Donc c'est ça me fait peur, moi, ça me fait peur.
Oui, moi aussi. Puis
je pense pas que ça ressemble, c'est de l'eugénisme, je dirais.
Pardon?
Je dirais pas que ça ressemble seulement à l'eugénisme. J'ai l'impression que c'est de l'eugénisme.
Ouais. Donc, tu abondes dans le sens de Jean-Marie Le Méné qui développe cette thèse-là d'un eugénisme banalisé, comme le disait Ariane plus tôt. Alors, on parle des risques liés au dépistage, mais en amont, bon, il y a des risques liés au dépistage, mais c'est quoi les probabilités qu'un couple ait un enfant atteint du syndrome de Down?
Alors, les probabilités augmentent. En fait, toutes les femmes peuvent avoir un enfant trisomique. C'est pas quelque chose d'héréditaire comme certaines maladies. Toutes les femmes, une femme de 18 ans peut avoir un enfant trisomique comme une femme de 40 ans. C'est juste que les probabilités augmentent avec l'âge. Par exemple, une femme de 20 ans, elle va avoir une chance sur 1500 que son enfant soit trisomique. Alors qu'une femme de 40 ans, elle va avoir une chance sur 100. Puis quand on monte à 42 ans, c'est une chance sur 50. Et à 44 ans, une chance sur 30. Or, les femmes, en général, vont avoir des enfants de plus en plus tard, en fait. On va faire les études, la carrière, et puis passer la trentaine, penser à réfléchir à avoir des enfants.
Ouais, d'ailleurs, l'âge moyen pour la première grossesse dans les 30 dernières années est passé de 22 à 24 à 26. Et aujourd'hui, on est autour de 30 ans pour la première grossesse
au Québec. C'est ça, ça augmente. Donc, le cas de trisomie, les probabilités d'avoir des enfants trisomiques augmentent en conséquence. D'où l'importance, selon certains, d'avoir encore plus de dépistage parmi les femmes.
Bien entendu. On le disait plus tôt, Jean-Marie Lemenné, qui est président de la Fondation Jérôme Lejeune en France, nous parle d'un génocide. Hein, c'est un mot quand même assez fort. Pourquoi il utilise ce mot-là précisément?
Il utilise ce mot-là parce que, comme on le disait tout à l'heure, il va y avoir dans 90 à 95% des enfants qui vont être avortés après le dépistage. Et donc, c'est pas un petit avortement du premier trimestre où le bébé est tout petit et la femme, par contre, n'a pas encore senti bouger, par exemple. Ça peut être des avortements qui vont être très difficiles pour la femme enceinte parce que c'est des accouchements qui sont provoqués après que le bébé ait été tué dans le ventre de sa mère. Et donc, c'est des événements terribles pour la mère, mais aussi pour l'enfant qui doit ressentir beaucoup de douleur et qui meurt.
Évidemment.
Donc, il parle vraiment d'un génocide parce que c'est banalisé et on les tue, en fait. Mais la grande nouveauté dont il parle dans son livre aussi, c'est qu'il y a un nouveau dépistage qui se profile à l'horizon, qui va être proposé dans les prochaines années en Occident. À certains endroits, il est déjà proposé et qui permet de trouver les enfants trisomiques sans l'amniosynthèse. Donc, sans de dépistage invasif, sans de risque de fausse couche. C'est des prises de sang, parce que dans le sang de la mère, il va y avoir aussi le génome du bébé. Et on permet de voir si l'enfant est trisomique ou pas. Sauf que pour le moment, il y a plus de 1% de faux positifs. Donc, il y a dans plus de 1% des cas, on va déterminer que l'enfant est trisomique alors qu'il ne l'est pas. Donc pour le moment, ce n'est pas un dépistage qui est vraiment préconisé parce qu'il y a trop de chances qu'on se trompe en fait par rapport à l'amniosynthèse où il y a 1% de fausses couches. Mais quand on va réussir à descendre en dessous du 1%, je ne sais pas moi, 0,9% de faux positifs, là on va le proposer à toutes les femmes, c'est beaucoup moins dangereux, les femmes vont l'accepter parce que ce n'est pas une amniosynthèse, il n'y a pas de risque pour leur bébé. Et puis si jamais elles veulent vraiment vérifier, elles pourront toujours faire l'amniosynthèse. Donc ça, c'est ce qui est proposé, ce qui sera proposé bientôt à grande échelle.
Mais bon, là, ici, on est tous autour de la table, puis ça nous scandalise un peu d'entendre des choses comme ça, mais en même temps, on peut se dire, ouais, mais tu sais, avoir un enfant comme ça, ça peut être beaucoup de souffrance. Ces enfants-là sont handicapés, que ce soit la trisomie 21 ou une autre sorte d'handicap, mais ça amène tout un dérèglement dans la vie, tout ça. Donc, il y a des gens qui se disent, non, ces enfants-là, c'est bien, au contraire.
Ils ont une place.
C'est un peu ce que je disais aussi dans un article dans la revue Le Verbe, publié cet automne. Il y a quelque chose d'un peu, entre guillemets, légitime à désirer avoir un enfant en santé. On le souhaite tous pour nos enfants. On a des rêves pour eux, on a des projets. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu naturel à souhaiter avoir des enfants en meilleure santé que possible?
Oui, c'est naturel et c'est ce que veulent tous les parents, parce que la santé, quand elle se dégrade, c'est quelque chose de vraiment difficile à gérer. En même temps, on ne choisit pas ses enfants comme on ne choisit pas ses parents. Et il y a un oubli un peu de l'accueil de la vie comme elle est, en fait. Et aujourd'hui, on veut que tout soit parfait, avoir un enfant en bonne santé, une carrière, que tout aille dans un ordre prédéterminé. Et il y a une grosse pression sociale pour ça, en fait. C'est assez impressionnant, comme on en parlait tout à l'heure au niveau du dépistage. Il n'y a pas vraiment de réflexion, ça, c'est imposé un peu.
Qu'est-ce que tu dirais aux parents qui sont qui ont le bras dans le tordeur ou qui sont dans ce processus-là, soit qui hésitent ou qui se posent la question par rapport à l'amniosynthèse?
Je dirais que c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère, la trisomie 21, c'est vrai, mais ils vont être avant tout des parents et ça vient avec son lot de souffrances d'être parent. Quand on voit son enfant qui a à peine un an, puis que ça fait la dixième fois dans la nuit qu'il est en train de vomir, puis qu'on a l'impression que c'est la fin du monde, ou quand on est jugé par les voisins, par l'école, par le corps médical, par rapport à nos choix éducatifs, par rapport à notre foi, par rapport aux valeurs qu'on veut transmettre, il y a des tas de sources de souffrance, et on ne sait jamais de quoi la vie va être faite, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'adolescence de nos enfants, ou même plus tard. On peut avoir des enfants qui malheureusement se font renverser par une voiture, décèdent. Ça vient avec un lot de souffrance d'être parent, mais il y a aussi des joies en fait. Il y a des choses toutes simples, le fait de voir ses enfants grandir, les sourires, les regards qui sont pleins d'amour gratuit. Et c'est pas le nombre de chromosomes qui va faire en sorte qu'il va y avoir plus ou moins de joie. Au contraire même, les études montrent que les enfants trisomiques et les familles qui accueillent des enfants trisomiques sont plus heureuses que les autres familles. Donc le choix de dépister et supprimer les trisomiques, c'est même, ça va à l'encontre de la raison et des faits, en fait. Tous les enfants vont être une source de peine, mais aussi de joie. Et je pense que quand on a des enfants qui sont malades, on a la chance aussi... la chance. On fait partie un peu des pauvres et des faibles de ce monde, et Dieu va nous accorder aussi une préférence, parce qu'il accorde sa préférence, et c'est grâce à ceux qui sont faibles et ceux qui sont...
Vulnérables
mm-hmm. et qui sont à l'épreuve des autres, en fait.
Pour terminer ta chronique, je pense que tu avais une petite note positive pour
nous. Oui, alors parce que Jean-Marie Le Bénet, son livre est très noir et ça dépend d'une situation qu'il faut dénoncer. Mais je pense qu'au quotidien, nous, ce qu'on peut faire, c'est on peut prier déjà pour l'inclusion des personnes qui sont différentes dans la société. On peut soi-même décider d'inclure les personnes qui sont différentes dans nos vies, avoir un regard d'amour et pas un regard fuyant envers les personnes qui sont différentes. Donner du temps, aider. Par exemple, il y a l'Arche à Québec. Il y a des camps de jour pour personnes handicapées. Il faut aussi savoir et défendre. C'est-à-dire qu'il faut s'informer sur la condition réelle des trisomiques. Il ne faut pas penser que c'est des personnes qui sont malheureuses, alors que ce n'est pas le cas. Et en sachant, en s'informant, il y a d'ailleurs beaucoup d'informations sur le site de la Fondation Jérôme Lejeune, on peut défendre un petit quand il est attaqué dans une discussion. Finalement, évidemment, on peut toujours donner de l'argent pour les fondations qui aident les familles et qui essaye aussi de défendre ces gens au quotidien et de montrer qu'ils sont heureux et qu'ils ne sont pas non plus un poids pour la société. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On dit que c'est des poids économiques, les personnes handicapées, alors que le coût du dépistage est bien plus important. On parle, par exemple, d'1 milliard d'euros pour dépister toutes les femmes en France par an, par année.
Il y a un business derrière ça.
Alors que si il n'y avait aucun dépistage, il n'y aurait que 1 300 trisomiques qui naîtraient en France. Donc, c'est une ampleur d'un dépistage pour un problème qui ne devrait pas être immense, en fait.
Ariane Beauferré, merci beaucoup.
Merci.
C'était « On n'est pas du monde » en version 15 minutes avec Antoine Malenfant et son invité.